Merci beaucoup. Moi, je suis Guillaume Evano, chargé de recherche à l'INRA au laboratoire donc UMRESE à Rennes. Je vais vous présenter donc les résultats d'un projet financé dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, qui portait sur l'analyse de la diversité génétique et de la démographie des saumons atlantiques du bassin de l'Allier. C'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec une personne en post-doctorat, Sabrina Lecam. Les objectifs de ce projet étaient les suivants. Tout d'abord, identifier l'origine, soit sauvage ou issue de repeuplement, des géniteurs qui remontent dans l'Allier. C'est le premier objectif finalisé. Le second objectif, c'était plus généralement de caractériser la structure génétique spatiale et temporelle de cette population. Je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire, hein, structuration génétique spatiale temporelle. Vous inquiétez pas. Le troisième objectif était de caractériser la diversité génétique du système immunitaire des saumons de l'Allier, encore avec une approche donc génétique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments très importants sur la biologie de cette population. Il faut savoir qu'on parle souvent effectivement du saumon de l'Allier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi est-ce qu'on finalement met autant d'efforts pour sauvegarder cette population? Il y a plusieurs raisons à cela. Donc, d'abord, la biologie unique est caractérisée par l'isolement des sites de reproduction à plus de 700 km de l'estuaire, voire jusqu'à 900 km pour ceux qui vont le plus en amont. C'est une situation qui est unique en Europe et même quasiment, on pourrait dire, dans l'aire de répartition du saumon, à part une population un peu équivalente en Russie. Il y a quasiment 100% d'individus à long séjour marin. Donc ce sont des grands saumons de 2 à 3 ans de mer, et ça aussi, c'est quasiment unique. Il faut savoir qu'en France, la majorité des populations de saumons sont caractérisées par une composante de ce qu'on appelle les castillons, les petits saumons, qui séjournent un an en mer. Et ces saumons-là, ces petits saumons, sont quasiment inexistants dans l'Allier. La phénologie de migration. Il faut savoir que les premières arrivées de saumons dans l'estuaire de la Loire ont lieu à l'automne, ce qui est aussi unique. En général, les premiers saumons de printemps sont notés plutôt, comme leur nom l'indique, en début de printemps, février-mars. Et enfin, on note une différenciation génétique très forte de cette population-là vis-à-vis des autres populations françaises, mais aussi plus globalement à l'échelle européenne. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Ici, ce sont des travaux qu'on a réalisés dans notre laboratoire dans le cadre d'une thèse de doctorat de Charles Perlier. Et on a travaillé en fait à l'échelle nationale. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, tous ces petits graphiques. Donc en fait, on a récolté des échantillons d'écailles dans 34 populations distribuées depuis donc la Haute-Normandie ici, la Basse-Normandie, la Bretagne, l'Allier et jusqu'au bassin de la Dour. On a fait des analyses génétiques et après on a essayé de voir quelles étaient les relations entre ces populations. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, on peut considérer qu'on a 5 groupes génétiques qui sont résumés par 5 couleurs sur le graphique ici en haut. Donc on a finalement un groupe génétique en Haute-Normandie, un autre en Basse-Normandie, un en Bretagne et l'Allier ici, tout seul, une seule population, un seul groupe qui est coloré en jaune et enfin le bassin de la Dour, en passant par les bassins de Garonne et d'Ordonne, qui sont des populations restaurées. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que ces 34 populations ne correspondent pas à 34 unités génétiques. On peut les regrouper en fait en 5 entités, et là-dedans, en fait, ce qui est remarquable, c'est que l'Allier constitue une entité à part entière. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de flux d'individus entre ces populations, ces groupes, soit des flux naturels, des migrations de saumons. Tous les saumons ne retournent pas se reproduire dans leur rivière natale, c'est faux, il y en a un petit pourcentage qui se disperse. Et l'homme aussi a eu un grand rôle là-dedans, bien sûr, avec les repeuplements entre grands groupes génétiques, qui ont, par exemple, ici, vous voyez que vous avez du vert et du rouge dans le bleu, c'est lié à des repeuplements. Pareil ici en Bretagne, mais de manière remarquable, on voit que dans l'Allier, on ne retrouve pas de traces de repeuplement issu de souches allochtones. Dans la pratique, on en a retrouvé un tout petit peu, mais c'est vraiment minime. Donc voilà, 5 grands groupes génétiques et l'Allier qui se distingue vraiment par son caractère différent de tout le reste. Si Si on regarde maintenant les choses à l'échelle européenne et qu'on s'intéresse à la diversité génétique, bon là, c'est un terme un peu technique, hétérozygosie, simplement c'est la probabilité d'avoir deux allèles différents à un locus, bon, bref. Ce qu'il faut voir, c'est que là vous avez des populations d'Écosse, d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Irlande, et là vous avez les populations françaises ici. Et là, une des populations avec la plus faible diversité, c'est l'Allier. Donc on est à 0,7, là où la moyenne est plutôt entre 0,75. Donc, ce n'est pas un niveau alarmant, mais c'est un niveau, une diversité qu'on peut dire relativement faible. Voilà, il faut quand même en tenir compte. Ensuite, donc là, des travaux directement issus du projet sur justement ce qu'on appelle la structuration génétique spatiale à l'échelle de l'Allier et de ses affluents. Donc là, on s'est posé la question, est-ce qu'on va observer des différences entre les individus qu'on va récolter sur le cours principal et sur les affluents. Pour cela, on a récolté des tacons, donc en collaboration avec les partenaires gestionnaires, l'Ogrammy, CNSS, entre autres. Et on a calculé encore des analyses génétiques qui permettent de mesurer la différenciation génétique, donc avec un indice qui s'appelle FST, ça c'est du détail. Globalement, c'est ces chiffres ici qu'on trouve, là, entre 0 et 2%. Ce sont des chiffres qui sont très très faibles. Typiquement, en dessous de 5%, on peut considérer qu'on a vraiment une structure très faible. Donc, visiblement, à l'heure actuelle, on n'a pas ou on n'a plus de différenciation génétique entre l'allié et ses affluents. Ça peut être lié à pas mal de causes, mais une cause probable aussi, c'est qu'il y a eu quand même des repeuplements très importants depuis une trentaine d'années, en tout cas, à l'échelle du bassin, qui ont pu, entre guillemets, homogénéiser cette structure génétique. Un autre volet en fait, de cette étude, c'était justement la caractérisation de la diversité génétique du système immunitaire. Pourquoi s'intéresser à cela? En fait, sur l'allié, il y a quand même quelque chose de particulier. Hélas, je dirais, c'est qu'on a remarqué à Vichy que beaucoup de saumons avaient ce qu'on appelait pudiquement des problèmes sanitaires, c'est-à-dire qu'ils étaient blessés et qu'ils avaient des infections assez marquées. Donc c'est quelque chose qu'on observe sur quand même une proportion significative d'individus. Donc on a eu beaucoup d'hypothèses autour de ça. Qu'est-ce qui pouvait expliquer ça? Une des hypothèses, c'était que justement, il y avait peut-être des infections et qu'ils étaient plus susceptibles simplement à avoir des infections par différents pathogènes. Donc l'idée, c'est pas vraiment qu'ils aient une infection directement, si vous voulez, c'est plutôt qu'ils soient blessés pour diverses raisons et qu'ensuite, ils soient moins capables peut-être de faire face à l'infection que d'autres populations, du fait justement de cette diversité génétique plus faible que les autres stocks. Ils pourraient être plus vulnérables. C'est ça qu'on a voulu regarder en étudiant le complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH. C'est un gène qui nous intéressait aussi parce qu'il caractérise l'adaptation des populations donc à leur environnement et donc le potentiel évolutif de ces populations. Donc on l'a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a échantillonné 500 individus, 22 cohortes, et on a fait ça sur une échelle en fait d'une trentaine d'années. Donc parce qu'on a pu récupérer des écailles depuis 1976 jusqu'à 2009. Et on les a donc analysés avec ce marqueur du système immunitaire et avec des marqueurs qu'on dit neutres, c'est-à-dire qui reflètent simplement la diversité génétique du génome, mais qui ne codent pour aucun trait physiologique. Et voici les résultats. Donc ici, vous avez chaque barre, en fait, c'est encore l'hétérozygosie, le même indice de diversité génétique que tout à l'heure, qui mesure donc l'hétérozygosie, donc la diversité. Sur la gauche, vous avez la diversité que j'appelle neutre, qui est c'est-à-dire la diversité de l'ensemble du génome pour des portions d'ADN qui ne codent pas pour des traits, mais qui sont effectivement neutres. On se rend compte, plutôt bonne nouvelle, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en moyenne à 0,7, mais on n'a pas de chute depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Chaque barre, donc c'est une cohorte, vous avez 22 barres, entre la cohorte 72 et la cohorte ici, la dernière qu'on a analysée de 2005, c'est relativement stable. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas eu un déclin drastique de la diversité génétique, suite notamment au déclin drastique de la population qui a eu lieu à la fin des années 80. Si maintenant on regarde la diversité du système immunitaire, donc la diversité qui compte, qui est impliquée dans le système immunitaire, on se rend compte que la surprise, elle n'a pas diminué, mais elle a même augmenté. Si on regarde en fait la moyenne des 6 barres récentes, elle est supérieure à, la, à ce qu'on avait dans le passé. Donc là, en fait, ça indique quoi? Ça indique que visiblement, la diversité est plus grande. Donc il y a deux hypothèses, en fait, non antagonistes. Donc les deux sont potentiellement peuvent être, agir en, en concert. C'est l'augmentation des pathogènes de manière récente qui sélectionnerait des individus pour une plus grande diversité. Donc voilà, une dégradation de la qualité du milieu. L'autre hypothèse, c'est aussi un changement de ces fréquences alléliques en lien avec le repeuplement massif mis en place depuis, on va dire, une dizaine d'années, qui peut aussi influencer la diversité génétique de la population. Donc ça, c'est deux hypothèses non exclusives. Là, je voudrais continuer sur une étude aussi qu'on a réalisée dans notre laboratoire, donc dans le cadre de la thèse de Jessica Cotte, qui, elle, n'a pas travaillé vraiment sur la génétique, mais sur des traits de juvéniles. Elle a travaillé sur l'adaptation aux stress environnementaux chez le saumon atlantique, et elle a comparé les performances, en fait, de juvéniles au stade embryonnaire collectées dans quatre populations. Donc Loire, en fait, qui est une, enfin, Loire en Basse-Normandie, ici, d'ailleurs, bassin versant de la Cellune, dont nous a parlé M. Bern ce matin, ici. Le Scorff, rivière à saumon de Sud-Bretagne. Le Saison, donc dans le bassin de la Dour, et enfin l'Allier. Donc on a été récolter des géniteurs, et ensuite on a récupéré les œufs, on les a fécondés. Les œufs, on les a amenés dans, ouais, dans notre laboratoire à Rennes, et on les a élevés en fait dans des conditions un petit peu stressantes, c'est-à-dire à 10 degrés, et à deux niveaux qu'on appelle d'hypoxie. C'est-à-dire en fait, on les a mis pardon, soit à un niveau de saturation d'oxygène dans l'eau, le 10 mg, qui correspond à un niveau tout à fait correct dans l'eau, et 4,5. Donc là, ça correspond à un niveau qu'on peut atteindre dans des frayères qui sont colmatées. Il faut savoir que quand une frayère est colmatée, que l'eau interstitielle ne circule plus, il y a un déficit en oxygène pour les embryons qui peut simplement amener à la mort et même réduire à néant des pontes entières de saumon. Donc on voulait un peu simuler ce processus et voir comment des juvéniles de différentes populations résistent à ce stress, qui est fréquent, hein, parce que le colmatage des frayères, c'est quand même très fréquent. Je veux dire en Basse-Normandie, en Bretagne et aussi dans l'Allier. Les résultats sont plutôt finalement surprenants et plutôt, je dirais, bons. C'est qu'en fait, on a un taux de survie qui est plutôt assez élevé. Donc à ce taux d'hypoxie, en fait, à le 4,5, on a une survie assez élevée de 90% de nos alevins. Et très bonne surprise, ceux de l'Allier, c'est la courbe verte ici, font aussi bien que les autres, donc entre normoxie et hypoxie. Et si on regarde la taille des alevins, elle est similaire, elle est dans la moyenne en fait des autres populations françaises. Et ça, pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on était plutôt inquiets sur le statut de l'Allier, de se dire, voilà, la population en déclin, est-ce qu'il y a un problème de diversité, de potentiel adaptatif? Et bien, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de, c'est ce que j'ai noté ici, de problème intrinsèque à la population de l'Allier, en tout cas en termes de potentiel adaptatif à des stress environnementaux. Alors bien sûr, hein, c'est réduit à une étude, mais c'est quasiment la seule étude qui prend en compte des populations dans un environnement commun et sur lesquelles on a mesuré les mêmes traits dans les mêmes conditions. Donc le volet évidemment le plus, ouais, effectivement très attendu ici par les gestionnaires sur l'Allier, c'était l'identification de l'origine des géniteurs qui remontent dans l'Allier. Vous savez tous qu'il y a effectivement des rempoisonnements qui sont réalisés par le CNSS. Une partie de ces déversements sont réalisés au stade Smolt. On sait que les retours à ce stade sont très faibles. Il y a aussi une grande partie des déversements qui sont réalisés au stade donc E embryonné et alevin. Mais on ne peut pas identifier morphologiquement les individus relâchés à ce stade. D'où l'idée de mettre en place un programme d'assignation génétique. Donc ce qu'on a fait, enfin d'ailleurs au passage, cela répond à une mesure du plasipomie, hein, de l'ancien plasipomie. Donc on a génotypé les géniteurs enfermés et sauvages utilisés par le CNSS pour la reproduction de décembre 2008, donc plus de 2000 femelles, plus de 500 mâles, et ensuite on a génotypé les descendants en 2012, enfin une fraction des descendants, je vais vous expliquer ça, pour voir quelle était la proportion qui était issue du repeuplement. Il faut savoir que, je n'ai pas présenté ici le cycle du saumon, mais vous savez que le saumon passe un certain nombre d'années en eau douce, une ou deux années, et en mer, il peut passer une, deux ou trois années. Ce qui fait que les individus d'une même cohorte ne vont pas rentrer dans leur rivière d'origine la même année. Par exemple, les individus de la reproduction 2008, C'est ce qui est indiqué ici. Ils vont revenir en 2012 pour les ceux qui ont 3 ans. Ceux qui ont 4 ans vont revenir en 2013. Et encore certains vont revenir en 2014. Donc nous, pour l'instant, on a les résultats uniquement de cette fraction-là de la cohorte qui sont revenus en 2012. Et donc sur les 93 individus qui ont pu être capturés par nos collaborateurs donc d'hologrammie du CNSS, il y en a 24 qui étaient assignables, c'est-à-dire qui étaient de cette fraction-là de la cohorte. D'où la nécessité, bien sûr, de poursuivre ce programme sur plusieurs années, ce qui est actuellement en cours. Mais quand même, sur ces 21 individus, donc qui ont passé un an ou 12 ans en mer, 9 étaient issus du CNSS, soit 43%. 5 étaient capturés à Vichy, 4 sur la Sioule. Et si on considère uniquement les individus capturés à Vichy, on est à 38%. Donc c'est quelque chose à peu près 40%. Donc je souligne que cette étude, pour l'instant, est basée sur un faible nombre d'échantillons, mais déjà, elle démontre que c'est faisable techniquement, qu'on peut assigner, avec la génétique, les poissons qui sont issus donc, du repeuplement. Donc c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les années à venir sur les autres compartiments de la cohorte 2009, ainsi que sur d'autres cohortes. Voilà. Résumé pour cette partie de mon exposé, c'est vrai qu'il faut que je me dépêche. La diversité génétique donc, est relativement faible, mais temporellement stable. Donc ça, c'est plutôt, elle est faible, mais on n'a pas baissé depuis les années 70, donc plutôt bonne nouvelle. Les performances des embryons de l'Allier face à un stress hypoxique, qui est tout à fait réaliste, et même qui était, comment dire, peut-être pas assez fort, mais en tout cas, les performances de ces embryons sont comparables à celles des autres populations. Les changements temporels qu'on a observés sur la diversité génétique du système immunitaire sont potentiellement dus à des changements dans la communauté de pathogènes et ou au repeuplement. Et donc enfin, on a une proportion qui est tout à fait significative d'individus issus du repeuplement parmi les géniteurs ayant une nageoire adipeuse intacte, c'est-à-dire par rapport à qui sont issus du repeuplement au stade œuf ou alevin. Mais avant d'aller plus loin, pour conclure sur ce point, il faut qu'on poursuive le programme sur plusieurs années. Maintenant, je vais vous parler donc d'une étude qui a été réalisée par des collègues à moi, mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc, ils m'ont demandé de présenter leurs résultats. Donc, on avait dit 15h10, non ? Oui, ça marche. Alors, du coup, je vais vous pas. Ouais. Ah, mais c'est que 5 minutes, mais il faut que j'aille moins vite. Allez, 8 minutes hein. Ok. Donc là, parce que je pense que cette étude est très très importante pour bien comprendre la dynamique de la population de l'Allier. Donc les objectifs étaient de fournir une analyse rétrospective de la dynamique de cette population et également d'identifier les conditions requises d'ordre naturel ou anthropique pour assurer la viabilité d'une population sauvage de saumon atlantique dans le bassin de l'Allier. L'idée, c'est qu'en fait, il y a un programme de repeuplement très important qui a été mis en place. Donc, bien sûr, il y a le CNSS, mais le repeuplement existe depuis beaucoup plus longtemps sur l'Allier, depuis les années 50, et on va dire, disons, depuis une trentaine d'années, il est assez important. Et finalement, le postulat assez consensuel à l'origine du repeuplement, c'est que les populations sont en danger d'extinction à court terme, en ce qui concerne l'Allier, et le repeuplement est nécessaire pour reconstituer une population viable. Et la question que va essayer d'aborder cette étude, c'est est-ce que les données disponibles vont confirmer ou infirmer ces postulats initiaux ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais uniquement vous présenter les résultats. Donc, c'est basé sur des données sur 30 ans, sur les données sur les abondances de juvéniles, sur les abondances d'adultes, sur les comptages de frayères, sur des simulations statistiques très poussées, pour résumer. Voici ce qu'on observe actuellement, enfin ce qu'on observe sur 30 ans au niveau des abondances à Vichy en nombre d'adultes. Ici, elles sont estimées parce qu'il n'y avait pas de station de comptage. Et ici, ce sont les abondances réelles observées depuis que l'observatoire est en place. Donc on observe un déclin très fort, notamment à partir de la fin des années 80. Et il y a un léger regain dans les années, depuis une quinzaine d'années, effectivement, mais ça reste quand même assez faible par rapport à ce qu'on avait dans les années 80. Si on fait une simulation en enlevant, si vous voulez, les effets du repeuplement de tous les poissons qui ont été déversés, on se rend compte, voilà ce qu'on observe. Donc on a un déclin qui est effectivement un peu plus marqué. Et si on regarde dans le détail, quelle est la contribution du repeuplement aux effectifs comptés à Vichy, on se rend compte qu'elle est tout à fait significative. Si on fait la moyenne sur les 15 dernières années, qui sont ces points ici, on a environ, d'après ces simulations statistiques, 330 individus chaque année qui sont issus de ces repeuplements, soit 67% de l'effectif total. Donc là, comment on a pu calculer ça ? Et bien en fait, c'est statistiquement, on soustrait le nombre d'individus estimés avec repeuplement, on leur soustrait le nombre d'individus sans repeuplement. Donc la fraction est loin d'être négligeable, tout à fait. Et si on regarde en termes de pourcentage, eh bien, on se rend compte que cette contribution, elle est tout à fait importante, notamment à partir des années 90, où elle grimpe en flèche. Et c'est aussi l'époque, en fait, où la population était au plus bas. Et du coup, la contribution relative du repeuplement, elle monte ici jusqu'à plus de 80%. Donc, ça, ce n'est pas mesuré avec des analyses génétiques, c'est mesuré avec des analyses statistiques, qui, si vous voulez, par rapport aux analyses qu'on a fait nous, ça reflète un état d'accumulation des effets du repeuplement. Ce n'est pas simplement le retour instantané des individus repeuplés les années qui précèdent. Donc, contribution très forte. Cette contribution est à mettre en lien avec l'augmentation des repeuplements depuis la fin des années 90, donc notamment la mise en place du CNSS, mais pas seulement, il y avait déjà avant les années 2000, on voit qu'il y avait quand même des effectifs déjà assez importants déversés dès la fin des années 90. Un aspect très intéressant de cette étude, c'est qu'ils ont pu faire de la prospective, c'est-à-dire un petit peu se dire, bon, ok, on en est là maintenant, qu'en sera-t-il dans 20 ans? Quelle est la viabilité de la population de l'Allier? Et quand on parle de viabilité, c'est est-ce que la population de l'Allier est capable de se maintenir sans repeuplement? Donc voici ce qu'on trouve. Si maintenant, on arrête les repeuplements, on imagine cette option, on se rend compte qu'on va avoir un déclin. C'est-à-dire, comme mon collègue a noté, le soufflet retombe. Donc, c'est-à-dire, on avait des effectifs qui avaient remonté un petit peu ces années-là. Et là, tout doucement, pas tout de suite, mais disons dans 20 ans, on tombe à environ une moyenne de 260 individus. Et, plus embêtant, on a une probabilité de descendre sous le seuil de 100 individus qui est de 10%. Donc, effectivement, qui n'est pas négligeable. Et une probabilité d'être en dessous de 500 individus qui est très forte, de 85%. Donc en fait, en moyenne, sans repeuplement, dans 20 ans, on pourrait être à environ 200 individus et même parfois être sous 100 individus. Mais ce qui est important, c'est que la population ne s'atteindrait pas. Elle serait à un niveau très faible, mais elle ne s'atteindrait pas. Et maintenant, si on imagine qu'on arrive à avoir en fait une survie égale à 50% de ce qu'on avait dans les années 80-90, et c'est ça qui est important, c'est que là les collègues ont regardé cette survie ici. Avant le crash de la fin des années 80, ici, si on prend juste le niveau de taux de retour des adultes, on prend 50% de cette survie-là, on la met dans les simulations, et là très clairement, on peut espérer retourner à une population stable et autosuffisante et pérenne de l'ordre de 800 individus sans repeuplement, avec donc une probabilité nulle, enfin quasi nulle, d'avoir de petits effectifs et une probabilité faible d'être en dessous de 500 individus. Donc là, c'est très clair, pour que la population soit viable, il faut améliorer les conditions d'habitat et la survie des individus. Alors, effectivement, c'est facile à dire, encore faut-il le mettre en œuvre. Donc si on retourne sur les postulats initiaux qui ont mis en place depuis 30 ans des politiques successives de repeuplement très importants sur le bassin de l'Allier, donc population en danger d'extinction à court terme, repeuplement nécessaire pour reconstituer une population viable, on s'aperçoit que la population de ce monde de l'Allier n'aurait pas disparu sans repeuplement. On s'aperçoit aussi quand même que le repeuplement massif augmente, les retours d'adultes, mais post-repeuplement, la population resterait petite avec un risque d'extinction modéré. Donc les postulats sont invalidés, clairement. Le repeuplement apparaît comme une sorte de faux-semblant qui n'améliore pas la viabilité de la population. C'est-à-dire qu'il augmente les retours d'adultes, mais dès qu'on arrête, on redescend au niveau d'avant. Donc on n'a pas amélioré, hélas, la situation. Également, il faut noter que les effets adverses du repeuplement ne sont pas considérés dans les analyses, à savoir la perte d'adaptation au milieu naturel de la souche sauvage avec des croisements avec des individus qui ont passé plusieurs années en milieu de pisciculture, donc un effet de domestication potentielle. La priorité aujourd'hui doit être de restaurer une population autonome en améliorant la survie à tous les stades et la qualité de l'habitat. Je me dépêche pour... Et donc, justement, le take-home message, un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la gestion? Eh bien, la conclusion de l'étude, c'est qu'il faut améliorer les taux de survie du juvénile 0+ à l'adulte de retour à Vichy, parce qu'ils sont extrêmement faibles, donc il faut essayer de réduire la mortalité à des valaisons et notamment à la remontée. Ça, on peut agir là-dessus. En mer, on ne peut rien y faire, c'est vrai. Mais on peut agir sur la mortalité à des valaisons et à la montaison. On sait qu'il y a une accumulation de géniteurs potentiels dans la zone en aval de Langeac, qui est peu efficace pour la production de juvéniles. Et ça, c'est un vrai problème auquel il faudrait s'attaquer. C'est qu'il y a une mortalité dans cette zone avant la reproduction, et la survie des embryons dans les fraisières est très faible. On parle souvent du haut talier, et dans cette zone-là, qui monopolise, je dirais, 30% des géniteurs, eh bien, elle ne produit que 40% des juvéniles. Il y a un vrai problème dans cette zone-là. Cela implique donc d'améliorer la transparence migratoire, la qualité des habitats sur cette zone et ses affluents, par exemple la Sioule ou la Lannion. Et le repeuplement ne s'attaque pas à ces causes, très clairement. Donc, il y a aussi autre chose du point de vue de la mise en œuvre des repeuplements. Pour diminuer leurs effets négatifs, il est très clair qu'il faut, dans la mesure du possible, utiliser des géniteurs sauvages pour éviter les effets de domestication, donc pas de géniteurs, si possible, qui ont séjourné toute leur vie en eau douce, en pisciculture, et déverser les individus au stade alevin, et donc éviter la stratégie Smolt qui est inefficace et qui pose des problèmes aussi de domestication. Voilà. Je vous remercie, et je remercie les financeurs et les partenaires gestionnaires.